Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Les professionnels de la construction ont lancé l'alerte à de nombreuses reprises. Le secteur du BTP va mal en Nouvelle-Calédonie, secteur qui emploie pourtant plus de 4000 personnes. Y a-t-il encore de l'investissement et quelles sont les perspectives pour ce secteur? C'est le thème de cette émission avec nos quatre invités. Éric Lafitte, le coprésident de la Fédération calédonienne du bâtiment et des travaux publics, la présidente de la commission Habitat et Urbanisme à la province sud, Muriel Malfar-Paoga, la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat, Elisabeth Rivière, et Julien Labaume, qui est de la branche BTP à la CPME et gérant d'un bureau d'études. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Éric Lafitte, cette crise du BTP, on en parle déjà depuis plusieurs années parce qu'elle n'est pas récente. Elle a été fortement aggravée évidemment par la période insurrectionnelle de 2024. Aujourd'hui, si on devait résumer ou présenter la situation du BTP en quelques chiffres, lesquels vous mettriez en avant ?
Effectivement, la situation du BTP était déjà dégradée avant les émeutes, mais elle s'est très fortement dégradée, puisque la situation a bien changé. Avant les émeutes, le BTP, ça représentait environ 6 000 salariés. Dans les bonnes années passées, on était plutôt à 10 000. Là, on était passé à 6 000 avec les difficultés que vous évoquiez. Et là, suite aux émeutes et toutes les difficultés, on est redescendu à autour de 4 000 salariés avec les derniers chiffres de début d'année qu'on avait. Et là, on pense qu'on va arriver à 3 000 salariés en fin d'année. Et on espère surtout que ça va s'arrêter là, puisque les licenciements continuent encore. La situation est toujours très, très, très difficile.
Réduction du nombre de salariés dans les entreprises. Est-ce qu'il y a aussi une réduction du nombre d'entreprises? Est-ce que certaines d'entre elles ont mis la clé sous la porte?
Oui, des entreprises mettent la clé sous la porte. D'autres, beaucoup sont en situation de sauvegarde. Mais les patrons d'entreprise, comme tous les salariés, sont extrêmement résilients et combatifs. Et donc tout le monde essaye. Le mot clé, c'est de tenir. Et donc tout le monde essaye de tenir dans le temps.
Alors le secteur du BTP, quelque part, il est un peu disparate. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelques grosses entreprises de BTP, des moyennes entreprises et aussi tout un tissu d'artisans qui interviennent dans le BTP, souvent comme prestataires. Elisabeth Rivière, est-ce que le monde de l'artisanat concernant le BTP est lui aussi aujourd'hui en grande difficulté ?
Bien sûr, l'ensemble du monde artisanal dans le BTP est très touché. Pour 2024, on a eu encore une perte de 5,54% d'entreprises artisanales. Mais depuis deux mois, on a un tout petit frémissement. Alors, je suis très prudente quand je dis ça, parce que on a 0,6% d'entreprises qui se sont créées. Donc, on s'interroge un petit peu de savoir si les personnels qui étaient dans les grandes entreprises et qui ont été licenciés, comme elles ont des compétences et qu'il faut obligatoirement, pour avoir une entreprise artisanale dans le bâtiment, avoir des compétences reconnues, n'essayent pas de rebondir et puis de créer leur propre entreprise.
Alors, souvent par le biais d'une patente.
Par le biais d'une patente. Alors, je suis, comme je vous le dis, très prudente parce que effectivement, on connaît aussi ce phénomène dans les années précédentes où des gens étaient licenciés des entreprises et venaient créer leurs propres entreprises pour essayer de s'en sortir. Donc, c'est positif, mais c'est très, très... C'est pas significatif non plus.
Julien Labaume, quel constat ou quel tableau vous dresseriez, vous, du monde du BTP en Calédonie, du côté de la CPME ?
Alors, du côté de la CPME, la société civile, donc les petites et les moyennes entreprises, on constate, comme Éric disait, beaucoup d'entreprises en redressement ou qui continuent à se fermer continuellement. Forcément, la part du marché, le gâteau, c'est drôlement amoindri. C'était déjà le cas avant les émeutes, hein. On constate que des entreprises qui étaient dans le neuf s'adaptent et passent dans la démolition, parce qu'il y a des besoins de démolition en ce moment, et dans la rénovation. Donc il y a un secteur qui est vraiment très porté. Nous, bureau d'études, on est avec les architectes en première ligne sur les études. Donc ce qu'on constate quand même de positif, c'est que depuis août, il y a une cadence d'appels d'offres publics qui est quand même conséquente.
Il y a à nouveau des projets dans les cartons qui commencent à émerger.
Voilà. Et ce qui est positif, et là où je tiens à quand même féliciter les différentes instances, c'est que c'est des projets de rénovation, reconstruction ou démolition pour l'essentiel qu'on a pu constater. Et c'est là où il y a un vrai besoin, c'est là où il y a une demande de la société civile de rénover, de maintenir en état ce qui existe. On parlait des équipements sportifs, par exemple, ou des équipements publics liés à l'éducation. Mmh. Il y a fort à faire, hein, à continuer sur cette lancée-là pour atteindre, espérons, les 45 milliards de chiffre d'affaires à nouveau pour redonner de l'espoir et de l'emploi.
Alors, on va pas dire de reprise, parce que les mots, il faut faire attention aux mots quand la situation est difficile comme ça, mais en tout cas, les frémissements ou les petits projets qui arrivent, ils viennent surtout du secteur privé ou du secteur public, Éric Laffitte. Est-ce que, aujourd'hui, alors, je sais pas s'il faut poser la question comme ça, mais quel est le secteur le plus dynamique, c'est le privé ou c'est le public?
Enfin, déjà, nous, au niveau de la FCBTP, on n'a pas tout à fait le même. On n'est pas aussi optimiste. On trouve pas vraiment de grosses reprises parce qu'on a toutes les entreprises ont un peu survécu avec le passé, en fait, avec les chantiers qui étaient déjà là avant. Donc, en fait, ce que le peu qui prend le relais, c'est insuffisant. Après, pour revenir sur public-privé, bah la structure du BTP avant les émeutes, c'était environ 60% privé, 40% public. Là, franchement, on n'a pas vraiment d'éléments, mais on peut estimer qu'on est peut-être à 80% de public et 20% de privé. Enfin, le public a pris largement le pas avec une commande bien inférieure à avant. Donc c'est effectivement, c'est compliqué. Pour revenir à ce que disait Elisabeth au niveau des artisans et des créations d'entreprises, effectivement, nous le constat qui est clair, c'est une déstructuration des entreprises, puisque les entreprises se sont habituées à être maintenant plus petites. Alors, ce qui est fou dans les appels d'offres ou dans les quelques dossiers qu'il y a, c'est que petit, moyen, gros, les petits, comme il n'y a pas assez de petits, vont sur les quelques gros qu'il y a. Les gros, comme il n'y a pas assez de boulot, vont sur le petit. Tout le monde.
Donc, il y a une sorte de dérégulation aussi des habitudes du marché de la construction.
Complètement.
De la rénovation.
Comme le disait Julien, après, essayer d'aller sur plus la partie rénovation. Et puis du coup, venir en concurrence à des gens qui étaient déjà assez nombreux dessus, enfin, etc. Donc, effectivement, il y a une grosse déstructuration des entreprises. Avec vous donner des exemples, je discutais encore ce matin avec un membre de la FCBTP là qui est dans la menuiserie bois là par exemple, bah, qui avec des entreprises qui sont assez importantes, qui ont, comme il n'y a plus de grosses opérations, elles sont plus du tout adaptées au secteur. Ça va être le cas pour de la charpente bois ou de la charpente métallique ou même les entreprises de gros hommes qui sont trop structurées pour les petites opérations. Donc il faut ça veut dire que dans toutes les opérations on est tous face à face, en fait, les petits, les gros, parce qu'il n'y a plus assez de travail, donc c'est vraiment une déstructuration complète.
Alors les élus sont évidemment au courant de cette situation, vous les avez alertés à plusieurs reprises. Muriel Malfard, Paoga, vous connaissez bien la situation du logement en Nouvelle-Calédonie. Comment on peut aider le secteur du BTP, parce qu'on parle de la commande publique, certes, mais on sait bien que dans les caisses des collectivités, il n'y a pas non plus beaucoup d'argent, il y a la mission reconstruction qui flèche un certain nombre de projets, mais comment on peut aller plus loin aujourd'hui? Quelles sont les pistes qui sont envisagées et qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Tout d'abord, merci de m'avoir invité et de pouvoir m'exprimer sur l'histoire du BTP. C'est une grande histoire entre le BTP et moi, puisque aujourd'hui, enfin, le BTP est en crise, mais ça fait longtemps. À chaque fois, il y a eu des crises du BTP. Moi, ce que je voulais dire, c'est que justement, après le Covid, il faut se rappeler qu'il y avait déjà la crise du BTP, puisqu'il y a eu une charte qui avait été signée en décembre 2022, où le BTP m'avait saisi en tant qu'élu, et qu'il y a une charte qui avait été signée à la province sud pour pouvoir demander aux bailleurs sociaux, parce que le BTP est souvent sauvé par les bailleurs sociaux. On tape sur les bailleurs sociaux, mais c'est les bailleurs sociaux qui, à chaque fois, viennent en secours sur le BTP. Et sur la charte qui avait été mise en place, c'était justement, c'était revoir les prix. Vous parliez des commissions d'appel d'offres. Donc on a revu au niveau des prix pour rehausser, puisqu'il y avait la guerre en Ukraine qui avait fait augmenter les prix. Donc cette charte, elle avait quand même permis...
Les prix des matériaux.
Tout à fait, les prix des matériaux. Donc cette charte avait permis de ne pas faire payer la garantie d'emprunt, de faire même des avances de trésorerie aux BTP, aux entreprises, pour pouvoir les aider financièrement. Ça date de 2020. 2022. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que... Monsieur, tu vous l'avez dit, c'est vrai que par exemple la province sud, on a été critiqué l'année dernière quand on a fait voter la rénovation des locaux de la province sud qui n'avait pas été fait depuis 30 ans. Là, c'est quand même 1 milliard qui a été injecté dans le BTP et je suis heureuse de voir aujourd'hui tous les jours les entreprises qui travaillent, petites ou pas. Il y a eu quand même plus de 13 établissements qui ont été votés. Aujourd'hui, c'est sûr que ça ne va pas suffire. Pour moi, je suis convaincue que c'est les bailleurs sociaux qui vont pouvoir, encore une fois, venir aider. Alors, pas construire plus, parce que j'habite, moi, les quartiers. J'habite à Dombéa-sur-Mer. Les émeutes, je les ai pris de plein fouet. Par contre, c'est aujourd'hui, peut-être, et c'est ce que j'ai dit et que je dis depuis 2-3 ans, c'est la rénovation ou la réhabilitation urbaine. C'est-à-dire détruire et reconstruire. Et ça, on peut le faire tout de suite avec l'État, avec les contrats de développement. Aujourd'hui, il faut qu'à un moment donné, l'État aussi intervienne, nous aide avec ses contrats de développement pour détruire, reconstruire, revoir l'urbanisation. Et ça, ça peut être injecté tout de suite. Moi, il y a des projets, on parle des tours de Magenta, on parle de l'immeuble Ciateas qui est tout termité, c'est 10 milliards. On peut le faire, mais maintenant c'est vrai qu'on a besoin de l'État, puisque là je sors du Congrès, quand on voit qu'on a 11 milliards en moins de recettes fiscales, il va falloir avoir des priorités. Mais au niveau de plan de relance, je pense que ça, sur le BTP, sur les constructions... Alors ce que je voudrais dire aussi, et je fais vite, c'est les commissions d'appel d'offres. Moi je suis quand même assez choquée parce que j'assiste à certaines commissions d'appel d'offres et il y a des entreprises qui ne répondent pas. On se trouve avec des appels d'offres infructueux. Parce que les entreprises sont aussi découragées des fois parce que peut-être on demande trop de documents. Et il y a, je vous assure, des commissions d'appel d'offres qui sont infructueuses, que ce soit même à la province ou que ce soit avec les bailleurs sociaux. Donc ça, il faudra peut-être travailler dessus.
Est-ce que ça participe pas, est-ce que ce n'est pas la conséquence de cette dérégularisation dont vous parliez, Éric Laffitte, où les entrepreneurs du BTP ne savent plus trop à quel sein se vouer et vers qui se tourner?
Ça, j'ai pas trop de réponses, mais Julien peut donner des exemples de...
Julien Labonne.
Je pense, pour rejoindre ce que Muriel disait, il y a effectivement certainement un découragement parce que des entreprises sur des moyens marchés de rénovation se retrouvent à 80 personnes sur la visite. Ça fait beaucoup de monde. Hein. Il faut presque un micro pour parler à la visite. Et il y a une liste de dossiers comme ça, de papiers à transmettre. Alors, pour certains dossiers, selon la complexité, ça peut justifier. Mais pour d'autres, effectivement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de tous ces papiers? Et est-ce que les institutions et est-ce que les patentés sont au courant que depuis peu, une loi est passée, que passer 100 millions de marchés, les moyennes entreprises et les grosses entreprises ont une part à sous-traiter aux plus petites? Et je pense, pour aller au-delà de la construction, pour aller au-delà de la construction dans tous ces quartiers qui soient sociaux, il faut aussi de l'encadrement, des terrains sportifs, on en parlait tout à l'heure, créer un dynamisme qui fasse que les jeunes ne s'ennuient pas et du sens.
Éric Laffitte.
Moi, je voulais laisser la parole à Julien, puisqu'on discutait en aparté tout à l'heure du nombre d'entreprises aux appels d'offres. Donc, c'est pour vous répondre. Nous, la vision qu'on a, c'est surtout un nombre de réponses absolument fou, au contraire, aux appels d'offres, parce que les gens cherchent du travail à tout prix. Donc, effectivement, comme Julien, quand on fait une visite préalable à la remise d'une offre sur un chantier, on retrouve tous nos confrères et puis même des confrères qu'on connaissait pas. Voilà, on en est plutôt là.
Alors, il y a une inquiétude sur la pérennité des entreprises du BTP, quelle que soit leur taille. C'est une inquiétude aussi qui est revenue souvent. On en avait entendu parler pendant la crise Covid et bien évidemment aussi après les émeutes. C'est la question de la préservation des compétences aujourd'hui, parce que ce sont des secteurs qui demandent de la compétence. On parlera aussi avec vous, Elisabeth Rivière, de la formation, parce que ça aura forcément aussi des impacts. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez ou vous constatez déjà sur certaines entreprises ou par rapport à certains chantiers une baisse de compétences et moins de compétences en Calédonie, Julien Labonne?
Oui, très clairement, on voit que les entreprises, alors ça part vraiment du lot gros œuvre et après du second œuvre, peinent à maintenir leurs salariés qui sont là depuis longtemps et qui ont été formés par la société. les sociétés en question. Donc oui, il y a vraiment dans les priorités du budget des instances publiques, celle de l'éducation, des formations professionnelles, parce que ça marche dans plein d'autres pays. Donc prenons exemple sur ce qui marche.
Justement, la question de la formation, on peut en parler avec Elisabeth Rivière, avec le CFA notamment. Est-ce que les formations dans le BTP, d'une façon générale, attirent toujours les jeunes? Et est-ce que par rapport à cette contraction du marché, dont on ne sait pas combien de temps elle va durer exactement et comment elle va se redéployer après, on ne risque pas d'avoir sur le marché du travail un nombre de jeunes formés, certes, mais sans pouvoir trouver de débouchés?
Alors oui, je vais rebondir sur la formation professionnelle. Effectivement, donc avec notre CFA sur lequel on forme dans différents métiers, notamment dans le bâtiment. Dans le bâtiment, on a fait un choix l'année dernière, comme vous le disiez, c'est de ne pas amener non plus des jeunes sur le marché du bâtiment et qu'ils ne trouveraient pas de travail. C'est aussi préserver les entreprises qui sont existantes et qui ont des compétences et aujourd'hui ne pas pour l'instant ramener trop de main-d'œuvre qualifiée sur le marché qui ne trouverait pas d'emploi. Donc il a été fait un choix l'année dernière sur les secteurs du bâtiment, notamment plus tout ce qui va toucher à la maçonnerie, le gros œuvre, de ne pas se réorienter pour l'instant sur ces formations, mais plutôt d'être dans les métiers où il y a plus de demandes, dans le domaine de l'électricité, des métiers qui vont permettre de la rénovation. Notamment, on a une section qui fait de la rénovation dans tout ce qui va être climatisation. Donc, on a aussi fait ce choix pour préserver aussi les entreprises qui sont aujourd'hui existantes et qui ont du mal à survivre. Alors oui, la formation est essentielle, est importante. On a une jeunesse aujourd'hui, et on l'a vu, qui demande à être formée, qui a besoin d'être formée. Il faut des moyens pour former. Aujourd'hui, on a été confronté en début d'année à un manque de financement pour pouvoir mettre en place toutes les sections. Aujourd'hui, ce problème a été résolu, mais on a aujourd'hui 1000 demandes pour 100 places en entrée dans notre formation. Donc, on doit se poser les bonnes questions et comment on fait pour accompagner ces jeunes sur les formations. Alors, je vais aussi dire un mot sur notre centre de formation qui a été détruit, pour lequel aujourd'hui, on est en train de travailler sur la reconstruction. Alors, bien sûr, cette reconstruction, c'est un gros chantier qui pourrait ramener effectivement du travail dans le bâtiment. Mais je crois que au-delà de tout ça, on doit aussi penser, comme on le disait, au financement de ces formations. Alors, on pourrait reconstruire un CFA, mais si demain, on n'a pas de financement pour ces formations, bien peut-être qu'aujourd'hui, on doit aussi réfléchir différemment. Et avons-nous besoin d'un aussi gros CFA pour former l'ensemble de notre jeunesse et peut-être concentrer ses crédits sur la formation plutôt que sur une infrastructure?
Alors, si je vous entends bien aussi, l'équation est difficile, c'est-à-dire qu'il faut continuer à former les jeunes, mais pas trop, pour que s'ils arrivent sur le marché du travail, ils puissent trouver de l'emploi. Mais si aussi ça démarre, il faudra aussi qu'il y ait des jeunes formés pour pouvoir répondre aux besoins du territoire. Donc, on est toujours dans un équilibre un peu délicat.
C'est un équilibre un peu délicat, mais je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de compétences encore dans nos entreprises. Et on le disait tout à l'heure, les gens perdent leur emploi et ces compétences, elles échappent aux entreprises. Donc, il faut vraiment trouver cet équilibre.
Un mot encore avec vous, Muriel Malfar-Paouga, vous l'évoquiez. Vous voulez rajouter quelque chose, Éric Lafitte?
Oui, en complément à ce que dit Elisabeth. Donc on comprend qu'effectivement, nous dans le BTP, on ne veut pas construire pour construire. Hein. On réclame de construire des choses utiles. Mais à travers les propos d'Elisabeth, parce que Moi, c'est le contraire. Je dis qu'il faut le construire, ce CFA, mais qu'au contraire, il y a les moyens derrière de former et
de l'exploiter.
Je vais juste compléter. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas question de le construire. On se pose des questions aujourd'hui compte tenu des financements, parce qu'un outil de cette mesure, il faut prévoir aussi des financements pour le faire fonctionner. Et on sait qu'en général, sur un gros projet, c'est 10% de fonctionnement par an. Donc, il faut avoir ce budget de fonctionnement plus les financements pour mettre en place les formations.
Pour compléter sur les compétences, donc effectivement, les entreprises sont tellement touchées qu'elles sont dans le noyau dur. Donc, elles sont vraiment dans les compétences fortes de l'entreprise qui sont... qui pour certaines sont obligées de partir. Ça a démarré. Et quand je parlais tout à l'heure de déstructuration des entreprises, bah, l'inquiétude après, c'est si l'activité repart très vite, ça va être effectivement compliqué d'assumer.
Enfin, il vaut mieux quand même avoir trop d'appels d'offres auxquels on répond que pas assez.
Ça, c'est évident.
Voilà,
ouais. C'est évident.
Mais il faut tenir quand même. Il faut prévoir la suite en quelque sorte.
On aimerait bien pour un chef d'entreprise, ce qui est important, c'est d'avoir de la visibilité pour s'organiser. Et là, ce qui est super dur, c'est le fait justement de ne pas en avoir.
Un mot sur les bailleurs sociaux que vous avez évoqués, Muriel Malfar-Paugan. On les recevra sans doute dans une prochaine émission, les Jeudis de l'économie. Mais ils nous parleront de leur situation. Mais il faut qu'eux aussi aient des financements pour pouvoir lancer des projets, notamment de réhabilitation. Et dans quel état sont leurs finances aujourd'hui? On sait qu'il y a beaucoup d'impayés, qu'en raison de la crise sociale que connaît la Nouvelle-Calédonie, bien les budgets des bailleurs sociaux sont aussi en difficulté. Est-ce que ces bailleurs sociaux ont aussi de la ressource quand même pour lancer de nouveaux projets, même si c'est entre guillemets que de la rénovation à vaste échelle?
Alors sur trois bailleurs, il y en a deux qui sont en difficulté, qui sont la SIC et la SEM. Mais aujourd'hui, je pense que, connaissant très bien le sujet, on peut, même en étant en difficulté, les bailleurs sociaux peuvent lancer des programmes de réhabilitation. Pourquoi ? Avec les contrats de développement. Les contrats de développement de l'État, c'est 75% de participation de l'État. Donc c'est quand même important. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je tape... Alors je suis un peu plus virulente, parce que je ne vois pas avancer, malgré depuis 3-4 ans où j'essaie de discuter avec l'État. L'ancien haut-commissaire Louis Lefranc était à l'écoute. Il avait même, à un moment donné, proposé, c'était juste après les émeutes, de dire que l'État pouvait mettre jusqu'à 90%. Le problème que j'ai, c'est qu'il y a une personne de l'État qui dit les contrats de développement, c'est pour la construction. Je dis oui, mais il faut faire évoluer. Aujourd'hui, ce n'est pas de la construction qu'on veut, c'est de la réhabilitation. Et on est en train de travailler avec la Banque des Territoires, et je voudrais remercier Hervé Tonnerre et Vincent Boursier, sur lesquels on est en train de travailler avec le FSH, puisque tout le monde parle des 2%, sur un fonds de rénovation urbaine. C'est-à-dire que l'argent, il serait là, plus avec l'État, et ça peut être réinjecté tout de suite dans le BTP. Donc pour moi, c'est quand même important, parce que que ce soit la SEM, que ce soit la SIC, surtout la SIC, c'est 12 000 logements, et on le sait, Tuban, il y a de la destruction et de la reconstruction à faire, je parlais des tours de Magenta, Saint-Quentin, je veux dire, il y a un projet qui était dans les cartons depuis des années, donc on peut, maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire tout seul. Le FSH aujourd'hui, on sait très bien que les 2% et le BTP contribuent beaucoup aux 2% avec les salariés, ont eu une baisse. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'on ne peut pas faire sans l'État. Et moi, je dis que la survie du BTP, en premier lieu, ça sera avec cette réhabilitation, cette rénovation, avec ces contrats de développement, parce que je ne vois pas d'autre issue. Bien que, si vous permettez, on parle toujours d'argent, mais il y a aussi ce problème qu'on a avec les assurances. Parce que moi, j'ai des entreprises que je reçois, avec qui je discute, etc., qui me disent le problème, c'est que on ne peut pas des fois construire parce que les assurances, ils ne veulent plus assurer dans certains quartiers. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui sont rouges. Ouais. Qu'on sait qu'à un moment donné, on va se dire les choses. Moi, vous savez comment je suis. Hein. Donc, à un moment donné, moi, je suis désolée. Mais le BTP est en difficulté. On a besoin de donner à manger aux gens. Il faut qu'ils retrouvent du travail. Mais on nous met tous les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, les assurances, elles assurent plus, même chez les bailleurs sociaux ou même dans les sociétés de construction. Elles me disent, on n'a pas l'assurance, donc les banques. Parce que ça a un effet. Le problème, c'est que si l'assurance, elle n'est pas donnée, la banque, elle ne va pas accorder le crédit.
Ou alors, donc, des tarifs exorbitants.
On est d'accord. Donc du coup, c'est
taux d'intérêt très élevés, c'est ça?
Oui. Des assurances.
Les assurances, oui, elles ont presque doublé. Donc il y a des entreprises qui ne peuvent pas suivre. Et les banques aujourd'hui, elles ont aussi leur rôle à jouer. Parce que comment voulez-vous construire, par exemple dans le privé, c'est l'accession à la propriété. On a sur la ZAC de Dambéa, on a le Picomore avec des terrains qui sont vides. Sauf qu'à 5,5%, ça ne marche pas. Alors il y a des gens qui travaillent à l'OPT ou qui travaillent dans l'administration qui pourraient faire un crédit, qui pourraient construire, mais aujourd'hui ils sont bloqués par rapport aussi au taux bancaire. Donc moi, un petit peu, je dirais le coup de griffe, c'est assurance et banque. S'il vous plaît, mettez-vous autour de la table avec le BTP et on va y arriver tous ensemble.
Elisabeth Rivière.
Moi, je voulais rebondir. Effectivement, il y a besoin d'avoir du travail et il faut qu'il y ait des grands travaux qui soient engagés pour sauver le bâtiment, parce que on parle tous, eh bien, de Effectivement, hein, les collectivités essayent de lancer des appels d'offres, les particuliers font de la rénovation, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. On a vraiment besoin que de grands travaux soient lancés, et pour que ces grands travaux soient lancés, ben, il faut aussi qu'on ait une stabilité politique et qu'on puisse permettre de développer ces grands investissements.
Mmh. Un mot peut-être pour terminer cette émission. Éric Lafitte, on a évoqué les difficultés du BTP en général. Est-ce que, parce que dans le BTP, il y a quand même aussi plusieurs secteurs, on s'aperçoit, si on regarde par exemple juste la ville de Nouméa, qu'il y a d'importants travaux de rénovation urbaine, sur les voies de circulation, il y a quand même de gros chantiers qui sont en cours. Ça veut dire que tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon ?
Oui, tout à fait, c'est assez inégal, parce que les secteurs ne sont pas touchés de la même façon. Il y a des sociétés qui sont... là, vous citez les routes, où effectivement, il y a pas mal de routes qui sont faites. Il y a surtout aussi des secteurs, des entreprises qui peuvent être à la fois sur plusieurs secteurs en même temps, par exemple, qui sont sur de l'entretien, de la maintenance... Et après de la rénovation et du neuf, donc des gens, il y a un secteur, le neuf marche pas, mais le reste marche à peu près. Il y en a d'autres qui sont en plein dans le mauvais wagon, dans le mauvais secteur. Donc oui, c'est un peu inégal, mais de façon globale, tout le monde est cependant touché.
Est-ce que ça oblige aussi peut-être les chefs d'entreprise, même si on l'a compris, ce sont des métiers avec des spécialisations très importantes, mais à diversifier quand ils le peuvent peut-être leur activité. Julien Labeaune, est-ce que ça fait partie des questions que se posent les chefs d'entreprise?
Oui, tout à fait. Elle se pose la question, et nous-mêmes, on est aujourd'hui, ce qui nous sauve, c'est qu'on est très très diversifié. Donc, on touche beaucoup de secteurs de clients. Donc, le public pour la reconstruction, le privé, qui, je tiens à le préciser, commence simplement là depuis 3-4 mois à reconstruire des opérations, parce que les assurances ont mis quand même du temps à débloquer les fonds, et tout le monde n'a pas forcément envie de reconstruire. Mmh. Donc, je parle notamment d'Umbea, où il y a deux projets. Est-ce que je voulais rebondir simplement sur la formation professionnelle? On est beaucoup d'adhérents à avoir besoin de
personnel ou...
de personnel en alternance. Voilà.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un à plein temps, mais l'alternance permet de les avoir dans l'entreprise 15 jours.
On ne peut pas se le permettre, mais en alternance, on pourrait. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment... un créneau à jouer dans le gouvernement. Et pour rebondir dans le même sens qu'allait Muriel, je pense qu'on a un parc immobilier de construction publique qui est quand même relativement vieillissant. On le voit, nous, dans les études qu'on a de reconstruction partielle de bâtiments publics. Les bâtiments sont vieillissants et il n'y a pas de budget. Mais si on n'utilise pas notre cerveau pour faire des...
En général. Mais pour préciser, quand vous êtes avec
la société civile, elle a besoin de projets qui ont du sens. Oui. Et donc, si on flèche des budgets pour rénover ces bâtiments, ça nous coûtera moins cher. Parce que si on ne le fait pas, ça va être des campagnes après délirantes.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans cette émission pour nous parler des difficultés du secteur du BTP, dont on espère qu'elles vont s'amoindrir au fil des mois, puisqu'il y a quand même quelques petits projets qui commencent à revenir, et que c'est une notion importante. Effectivement, les assurances ont parfois joué le jeu jusqu'au bout par rapport aux émeutes, et que ça va permettre à certains peut-être de relancer un certain nombre de travaux. Je sens que Muriel Malfa a encore un truc à dire avant de conclure l'émission.
Oui. Juste un chiffre, tu voulais parler de chiffres. C'est juste un chiffre, on parle des assurances, et quand même, il y a eu 62 milliards qui ont été versés par les assurances. Ils sont où, ces 62 milliards pour BTP? C'est tout.
Voilà. Bah, écoutez, la question peut être posée à ceux qui ont bénéficié des remboursements des assurances. Voilà. Merci de votre participation à cette émission qui sera disponible, comme chaque semaine, dans quelques instants. On réécoute sur notre site internet rrb.nc. Je vous souhaite une bonne après-midi.
Merci.
C'était les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.